Eh bien, bonjour ou bonsoir, frères et sœurs. N'est-ce pas un grand privilège de pouvoir servir quotidiennement notre Dieu, notre grand Dieu, par le Christ Jésus? Et à tous les gens qui nous regardent et qui ont une curiosité pour Christ, eh bien, ma prière pour vous, c'est que vous puissiez, à votre tour, par pure grâce, vivre, connaître le miracle de la nouvelle naissance. Vraiment, c'est ma prière pour chacun d'entre vous. L'objet de la capsule d'aujourd'hui, ce sera quand l'ennemi nous attaque. Et l'adverbe quand ici sera central pour l'ensemble de la présentation. On sait, en guise d'introduction ici, que le premier Adam a échappé les clés du royaume terrestre, un royaume qui lui avait été donné. Mais de par sa transgression, il a échappé les clés au sol. Et au passage, c'est le serpent, ou si vous voulez en hébreu, le Naresh, qui a ramassé les clés du royaume et qui depuis a imposé son dominion. C'est ce qui confirme la réalité indiquée par l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 5, verset 19, où qu'il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ajoutez à ce verset-là le verset 2 Corinthiens 4, 4, qui va jusqu'à dire que le Dieu de ce siècle, par extension le Dieu de ce bas monde, est le diable. Et que depuis que nous sommes rentrés dans la nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce, donc lorsque le royaume messianique introduit par le sermon sur la montagne fut refusé par les Hébreux israélites, eh bien, qu'est-ce que Christ nous a dit dans Jean 18, 36? Que son royaume n'est pas de ce bas monde, mais qu'il est d'en haut. Donc, ça met la table ici à quiconque fait une étude sérieuse à ce que la terre est au pouvoir et sous la puissance du malin depuis. Donc, c'est pour ça, lorsqu'on arrive avec un agenda dominioniste, juste en vertu des trois versets que je vous ai mentionnés, ça fait aucun sens. En plus de pas faire de sens, c'est que ça va emmener les chrétiens évangéliques dans une entreprise œcuménique où la saine doctrine de Jésus-Christ sera diluée à un point tel qu'elle ne produira plus aucun fruit quant au salut éternel des croyants. Donc le diable a établi les structures de son dominion terrestre dans tous les recoins de notre planète, mais aussi dans l'environnement interstellaire qu'on appelle également le deuxième ciel. Le deuxième ciel est infesté d'entités mauvaises et d'entités démoniaques. Concrètement, les agents qui œuvrent pour le dominion diabolique sur Terre et dans l'interstellaire, encore une fois, ont pour but à la fois de corrompre l'humanité, d'empêcher les gens d'avoir une relation avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, et ont aussi le mandat de troubler, tourmenter les chrétiens nés de nouveau, afin qu'ils deviennent esclaves de la peur et ne portent aucun fruit. Et à plus forte raison, je vous dirais que, afin que nous ne formions aucun nouveau disciple de Jésus-Christ, que le Seigneur nous a pourtant prescrit de réaliser à la fin des deux premiers évangiles. Donc une référence ici, Matthieu chapitre 28, les deux derniers versets, donc 19 et 20. Mais la question demeure, quand est-ce que l'ennemi attaque nos consciences et nos consciences renouvelées à nous, chrétiens de nouveau? Y a-t-il un ou des moments qui lui sont plus favorables pour nous attaquer? Plus spécifiquement, dans nos journées de 24 heures? Y a-t-il un moment en particulier où les attaques se manifestent davantage? C'est quand même une bonne question et souvent on ne prend pas, je vous dirais, le temps nécessaire pour vraiment s'y pencher. Petite statistique très simple ici. Le sommeil, que ce soit pour le chrétien ou pour l'inconverti, représente le tiers de sa journée. Le tiers pour travailler ou pour aller étudier, un tiers qui nous appartient et un autre tiers pour se reposer. Il est faux, mais archi faux de penser qu'il ne se passe rien durant notre sommeil. Je dirais vraiment au contraire. Que ce soit notre esprit, notre âme ou l'ensemble de la réalité spirituelle qui nous entoure, rien n'est mis sur pause. Donc, c'est une erreur de penser que l'ennemi et soi-même faisons une trêve pendant les 7, 8, 9 heures que l'on dort. On connaît l'ennemi, il est vicieux. Nous vivons comme des étrangers, comme l'apôtre Pierre l'a dit, comme des voyageurs sur cette terre. Et il perd pas son temps, l'ennemi. Et dans plusieurs cas, lorsque le repos n'est pas curatif, eh bien, il en profite pour s'insérer davantage dans chacune de nos vies. Y a des états d'esprit de la journée qui se prolonge jusque dans notre sommeil. Comment impacte-t-il la qualité de notre sommeil? Notre capacité à récupérer? Faut se poser ces questions-là. À bien commencer la journée, du bon pied. Bien, je peux déjà vous dire que, encore une fois, en guise d'introduction, que c'est significatif l'impact des agents du diable, des agents du deuxième ciel, sur le moment que Dieu nous a donné pour nous reposer. Dieu lui-même s'est reposé après 6 jours de création. Nous en avons besoin. C'est supposé d'être régénérateur. Et pourtant, c'est pas toujours le cas. Je vous invite à prendre vos paroles de Dieu et d'aller dans l'évangile de Marc au chapitre 4. On traite du sommeil ici. Et ce sera les versets 35 à 41. Donc on est à la toute fin du chapitre 4. La parole nous dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin, en parlant du Christ ici. Ils le réveillèrent, donc ses disciples le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis le Christ leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Le Seigneur s'était endormi paisiblement. Donc, au verset 38, ça nous dit, et je le répète ici, que le Seigneur Dieu prenait du temps dans ses journées pour dormir. N'oubliez jamais que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Donc, il vivait l'expérience humaine, ce que Dieu officiellement n'avait pas fait du moins de façon aussi extensive que dans la vie, les 32 ans et demi de Jésus-Christ sur terre. Et on remarque cependant que les disciples, eux, ils dormaient pas du tout. Eux étaient tenus captifs dans la peur. Oui, ils ont eu peur pour leur vie. Mais ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est qu'ils doutaient de la puissance de Jésus. Donc, il y avait un détachement. Ce détachement-là se poursuit pendant l'ensemble de l'Évangile jusqu'à ce qu'ils voient Christ ressuscité, et là, on voit une transformation. Et la transformation va se finaliser à la Pentecôte, acte 2. Donc là, on a l'impression d'avoir un groupe de disciples, d'apôtres, complètement différents de ce qu'on a connu durant tout l'Évangile. Il leur fallait ça. Donc, ils doutaient de la puissance du Christ. Au verset 41, on lit qu'ils furent saisis d'une grande frayeur. Pourtant, je vous parle par rapport à nous sur la dispensation de la grâce. Lorsque nous avons foi dans le Seigneur, et aussi foi dans ses promesses éternelles, qu'on retrouve partout dans la Sainte Bible, nous devrions plutôt demeurer dans un état d'assurance et entretenir une paix intérieure en permanence. Le Seigneur nous a donné la victoire à la croix. Le Seigneur veut notre sérénité. Il veut qu'on mène des vies paisibles. Et lorsqu'on regarde les apôtres dans la barque, mais c'était pas ça du tout. Pourtant, trop souvent, on agit et réagit comme les disciples qui ont accompagné le Christ dans cette portion des Écritures. Je peux vous dire, les disciples n'ont pas bien dormi cette nuit-là. Comme le texte nous dit, saisis de frayeur. Question d'identifier les causes qui peuvent perturber notre bien-être et l'état de sérénité que Christ pourtant nous offre quotidiennement. Je nous invite à aller dans 1 Jean, chapitre 2, et ce sera les versets 15 à 17. Donc, 1 Jean 2. Donc, l'apôtre et prophète Jean nous écrit ici, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a une ligne qui est tracée dans le sable ici, et c'est sans équivoque. Les soucis du monde, de notre image dans les yeux de notre prochain, nos plaisirs passagers, notre bonne réputation, le fait d'avoir peur de manquer de bonheur charnel, nous dévie, tout ça va venir nous dévier de notre communion quotidienne avec Dieu. Lorsque ces distractions occupent nos pensées, eh bien, on se met graduellement en nos troubles. Notre conscience n'est plus entouré des garde-fous qui peuvent nous garantir l'assurance et la sérénité de Christ. On se soucie parfois, souvent, de détails secondaires à nos vies, des bagatelles, au détriment de notre communion avec Dieu et des promesses qu'il nous a tous données. Je relis le verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. faisons-nous vraiment la volonté de Dieu? Et par extension, est-ce que l'ensemble des groupes maisons, des églises ayant pignon sur rue, l'ensemble de la prédication, de l'œuvre chrétienne, fait-elle vraiment la volonté de Dieu? On peut se poser la question, lorsqu'on sait qu'une prophétie qui est en train de se réaliser, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Moi, je dis se refroidit déjà. C'est une réalité présente. Sommes-nous dans la volonté de Dieu? La volonté de Dieu pour nous tous est de continuellement de garder notre focus sur le Christ Jésus. Peu importe les situations vécues en ce bas monde, tu gardes ton focus sur lui, tu gardes ton assurance, parce que tu es dans la barque avec le Seigneur, et tu sais que le Seigneur est là, et qu'il te sortira de n'importe quelle problématique. Tu as foi dans le Seigneur. Quand tu es dans sa barque, tu n'as rien à craindre. Lorsque l'ego est écorché, donc à savoir notre âme est directement reliée avec l'ego. L'ego, l'âme qui est notre centre émotionnel de nos êtres, alors que l'esprit va être relié plutôt à la conscience. Mais en plus d'être notre centre émotionnel, l'ego est aussi notre identité primordiale. Avant même qu'on naisse dans ce monde, nous avions cette identité. Bien, on comprend que l'identité dans son entièreté est écorchée lorsque l'ensemble de l'ego est écorché. Lorsque nous n'arrivons pas à transcender nos situations fâcheuses, et que donc on ne pose pas nos regards sur Christ pendant ces moments-là, durant ces temps-là, forcément, ça va se manifester sur notre sommeil. Je vous dirige maintenant dans Éphésiens 4. Et je lis seulement les versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, ne générez pas d'autres fautes suite à cette colère-là. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Les deux sont interreliés ici. Pourtant, on le connaît tous bien, hein, ce verset-là. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et on sait très bien le petit verset qui suit. Hein. Ne donnez pas accès au diable. Mais est-ce qu'on l'applique vraiment? Est-ce qu'il vous arrive de vous coucher en colère et de vous réveiller en colère? Est-ce que l'état d'esprit va se transférer, plutôt va continuer de votre sommeil, ou si vous voulez, juste avant votre sommeil et pendant toute votre sommeil. Vous allez partir votre prochaine journée du pied gauche. Que nos mauvais sentiments ne nous accompagnent pas dans notre sommeil et dans nos rêves. Ça, c'est l'équivalent de baisser la garde sur le plan spirituel. Cet aspect-là fait partie de notre mandat de marcher de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens 4:1. C'est le grand appel de Dieu pour notre sainteté à tous. Chacun, nous, ses enfants. On a le mandat de marcher de progrès en progrès, mais si on se couche sur notre colère, sur notre jalousie, sur notre amertume, sommes-nous vraiment en communion avec Dieu dans ces moments-là? Et comment peut-on marcher de progrès en progrès? Afin de, comme justement Éphésiens le dit, afin de tendre vers la stature parfaite de Christ. Je dis bien ici, tendre vers. Dieu a placé à l'intérieur de nous tous, une balance, qui est la pièce principale de notre conscience. Or, une balance qui est mal calibrée, qui est désajustée, ne donnera jamais les bonnes valeurs. Donc, si tu pèses 105 kilos, mais que votre balance devant vous, elle est pas calibrée, elle est désajustée, là, ça vous donne 150 kilos, ça se peut que vous vous mettiez en colère. Donc, l'exemple ici, si je reviens avec la balance, elle n'accomplit donc pas son mandat, sa raison d'être, qui est d'indiquer le bon poids, la bonne masse. La nouvelle créature en Jésus-Christ, qui a pour mandat d'annoncer la bonne nouvelle, de faire et former de nouveaux disciples de Jésus, et quand je dis de nouveaux disciples, c'est des gens qui, à leur tour, manifesteront un leadership pour soit éventuellement accueillir des gens chez eux, en église maison, et qui seront capables de mentorer de nouveaux croyants dans le Seigneur. Eh bien, si notre mandat, c'est ça, tout en marchant de progrès en progrès, bien, on dévie de la bonne marche lorsque notre corps, notre âme et notre esprit n'ont pas suffisamment de repos. On récupère jamais. Et c'est comme, je vous dirais, l'image de pelleter continuellement par en avant. Et on réalise ici que le sommeil est tourmenté, pas nécessairement pour des raisons physiques de travail, parce que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos capacités physiques, mais ça a pour source, pour raison, des raisons qui sont spirituelles, qui touchent l'âme ici, plus spécifiquement. Un égo froissé, ça fait plus mal qu'un genou qui est débarqué. Et ça peut s'étirer longtemps dans le temps. Laissez-moi vous énumérer quelques éléments de nos vies courantes qui peuvent, à la longue, venir affecter notre sommeil. Donc, on va rentrer ici de plus en plus dans l'application, dans le concret. Lorsqu'on considère le regard d'une certaine personne proche dans nos vies, plus que le regard de Dieu, ça, c'est un premier problème. Est-ce que vous, vous considérez le regard de votre conjoint, d'un enfant, de votre patron, d'un ami, d'un parent même, plus que celui de votre Sauveur et Seigneur? Est-ce que le Seigneur passe en deuxième? Soyez honnête avec vous, parce que la vérité est l'arme du chrétien qui permet de tenir l'ensemble de toutes les autres armes. Là, je fais référence à Éphésiens 6 ici. C'est la ceinture qui tient tout le reste. Si vous n'êtes pas franc avec vous, bien, votre armure est lousse, tombe continuellement et l'ennemi en profite pour vous attaquer. Soyez franc. Est-ce que c'est le regard de Dieu qui a votre principal focus dans votre quotidien? Si c'est celui de votre époux ou de votre épouse, vous avez un problème. Là, vous l'identifiez et ensuite, vous y remédiez. Tant que le regard de la dite personne ici n'est pas satisfaisant sur vous, que vous ne le considérez pas adéquat et que vous n'en êtes pas satisfait, eh bien, il y aura toujours une anxiété qui va demeurer. Et je ne vous le cacherai pas, dans le milieu du travail, dans les milieux professionnels, les patrons, ils sont formés pour ça. Qui vous montrent jamais une pleine satisfaction de votre travail pour que vous ayez toujours cette frayeur de l'employé. Et que justement, vous soyez toujours dans cet état d'esprit-là, de servitude. Pourtant, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5:1. Deuxième point ici. Accordez-vous beaucoup d'importance à ce que vous réalisez, soit au travail ou soit sur une base personnelle, vos œuvres. Est-ce un déterminant à vos vies et à votre estime de soi? Dit autrement, travaillez-vous pour vivre ou bien vivez-vous pour travailler? Si la réponse est la deuxième option, vous avez un problème. C'est aussi vrai avec la nourriture. On mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Donc vous avez un déterminant, c'est même un idole, un culte ici. Vous l'identifiez avec l'honnêteté du croyant et ensuite vous y remédiez. Avez-vous des projets sérieux qui risquent de jamais voir le jour? Encore là, lorsqu'on regarde ça en toute franchise, si tel est le cas, comment alors vous allez gérer tout ça lorsque vous allez comprendre que vous avez vu trop gros, c'était trop onéreux comme projet, ou ça a pris trop de temps, et que finalement c'est un échec? Allez-vous bien gérer l'échec? Qu'en est-il justement de vos échecs? Est-ce qu'ils vous rongent l'esprit lors de votre quotidien? Et si c'est le cas, bien, faut pas surprendre que ça vient s'extensionner jusque dans votre sommeil et ça va venir affecter votre sommeil. Lorsqu'on fait de nos projets un culte volontaire, je fais référence à Colossiens 2 ici, eh bien, c'est une distraction par rapport à notre communion avec Dieu. Et c'est une façon plus indirecte de donner accès au diable dans notre vie, surtout lorsque nous sommes amers de ne pas avoir réalisé tel et tel projet. Lorsque vous êtes en colère contre une personne, et ça je crois que ça nous arrive tous, est-ce que vous êtes du genre à vous répéter et vous rappeler la même ou les mêmes phrases dans votre tête? Vous passez votre journée, vous prenez des temps lorsque vous êtes seul à vous remémorer ces phrases-là pour que le jour que vous allez revoir la dite personne contre qui vous êtes en colère, vous allez être capable de la remettre à sa place, de la boucher bien comme faut, comme on dit. Ben, si c'est le cas, c'est sûr que ça va venir se manifester dans votre sommeil. Il y a un état d'esprit qui va demeurer. Et là, je dirais que de façon plus directe, c'est de donner accès à l'ennemi dans vos vies et n'espérez pas un sommeil réparateur ici. Il n'y aura rien de curatif dans le fait d'aller s'étendre dans son lit. Donc, on comprend que la colère, l'amertume, la rancune sont des fissures, des crevasses qui se tracent sur chacune de nos âmes, par lesquels l'ennemi arrive à s'infiltrer dans chacune de nos existences. Il est vrai que dans la nature physique, cette même nature-là a horreur du vide. Eh bien, à plus forte raison, la nature spirituelle a aussi horreur du vide. C'est pour ça que dans les cultes orientaux, lorsqu'on vous demande, à travers la méditation, de faire le vide, eh bien, c'est un danger spirituel. Alors que nous, chrétiens, ce que nous désirons, c'est d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Lorsque vous faites le vide, il y a un agent du deuxième ciel qui va avoir le désir et qui va le voir pour venir colmater ce vide en question. Si les fissures, comme je vous disais, ne sont pas colmatées rapidement par un exercice de conscience, usant la vérité, la ceinture de la vérité, eh bien, l'ennemi ne va pas perdre son temps pour élargir les brèches. Quand l'ennemi vient boucher ces crevasses-là, qui vient occuper les fissures, causée par notre amertume, notre colère. Alors le courant en Dieu et le croyant va diminuer énormément, un point tel qu'il peut devenir même bouché. Il n'y a plus de débit qui passe, in and out. Et la personne concernée a de la difficulté à y voir clair. Souvent, lorsque ça arrive, les gens ont tendance à se couper de leur communion et à ne plus lire le Logos, la parole générale de Dieu. Donc, on comprend qu'il y a de la résistance sur le chemin vertical entre la personne et Dieu. Et il y a toutes sortes d'idées qui peuvent passer par votre esprit lorsque l'ennemi a une prise solide sur votre âme. Encore une fois, je ne parle pas ici d'un chrétien né nouveau qui est possédé. Moi, je n'y crois pas. Ok. 1 Jean 4,4 est très clair là-dessus lorsqu'il dit que celui qui vit à l'intérieur de nous est plus fort que celui qui vit ou règne à l'extérieur. Je crois que c'est une belle assurance et à la fois une belle promesse qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Ceci dit, on a lu plus tôt dans cette capsule que il faut pas donner accès au diable. Donc, il y a quand même une étape intermédiaire ici. Il y a quand même, le mal peut quand même nous atteindre. Et il suffit de voir autour de nous combien des chrétiens sont devenus amers. Et combien de chrétiens, il faut le reconnaître, ont perdu beaucoup de batailles dans leur vie avec Christ. Beaucoup, beaucoup de batailles. Et ça, il faut être capable de le reconnaître. L'ennemi va induire, à travers les fameuses crevasses, à travers les fissures, il va induire toutes sortes d'idées au croyant qui est concerné. Tu mérites de te venger. Tu es la victime et ton antagoniste, c'est l'oppresseur. Retrouve ta fierté. Surtout aux yeux de ceux que tu considères le plus et qui parfois passent avant Dieu. Domine la personne. Remets-la à sa place. Lave le sang par le sang. Pourquoi tu lui pardonnerais à cette personne-là? Etc., etc. Si la blessure est très profonde et que le chrétien se sent incapable de pardonner, il est bon de se rappeler que le pardon n'est pas une question de force personnelle. Et trop souvent, on perçoit et considère le pardon de cette manière, une manière erronée. C'est pas une question de force personnelle, mais plutôt que c'est la manifestation de Dieu Tout-Puissant dans la vie des deux personnes. Donc, jusqu'à un certain point, le pardon que l'on veut faire à une personne, que l'on veut donner, ne dépend même pas de nous-mêmes. C'est un acte miraculeux, une intervention divine entre les deux personnes concernées. Pourquoi cette intervention-là? Pour permettre la guérison intérieure. Parce que forcément, dans les deux cas, il y a blessure intérieure et le pardon vient guérir. C'est pas une patch, il vient guérir, ultimement. Pourquoi qu'on pratique le repas du Seigneur? C'est l'examen d'une bonne conscience. Et à travers cet examen-là, bien, lorsqu'on a des choses à pardonner, c'est, faut les traiter, il faut les considérer. Je dirais pour la dernière partie de cet exposé, j'aimerais vous donner, je vous dirais, un morceau de viande. OK? Ce qui est pas... ce qu'on entend peut-être pas souvent dans les églises, surtout les églises d'aujourd'hui. Et l'idée derrière ça, bien, c'est que je veux arriver à un dénouement qui va être très exhortant. Il va y avoir un beau dénouement après avoir dit, vous avoir enseigné ce que je m'apprête à vous dire ici. Depuis le grand déluge jusqu'à nos jours, il y a un phénomène à travers les cultures, donc du berceau de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, qui est demeuré et sur lequel nos anciens, nos ancêtres ont été capables de donner une explication. Une explication d'ordre spirituel, puisque c'est purement spirituel comme phénomène. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui de façon plus technique la paralysie du sommeil. Donc, je suis dans un cas ici plutôt extrême, lorsque la personne aura donné vraiment accès au diable. Et ça concerne essentiellement des gens ici qui ne sont pas régénérés. Donc, vous allez voir, vous allez comprendre assez vite pourquoi il y a un beau dénouement à ce que je m'apprête à vous dire à l'instant. En latin, on va parler de succubus, incubus. Donc, en langue française, incube et succube. Et la science n'a jamais été capable de l'admettre parce que ça viendrait vraiment démolir leur narratif de ce que c'est vraiment la paralysie du sommeil. Paralysie du sommeil, on peut aussi inclure terreur nocturne. Qu'est-ce qui amène à ça? C'est quoi le phénomène? Eh bien, depuis la dispensation du premier gouvernement, donc sous le roi Nimrod, jusqu'à aujourd'hui, il y a des explications qui ont été données. Un incube, incubus, c'est un démon mâle qui se fait passer pour mâle, vous aurez compris, qui prend une forme de corps, si on veut, ou se manifeste visuellement pour abuser sexuellement d'une femme en sommeil. Et à l'inverse, la succube, c'est l'équivalent féminin de l'incube, donc on parlerait ici d'une démon, et typiquement, elle va s'en prendre aux hommes. Il y a un paquet d'images et de représentations artistiques. Vous pouvez aller dans Google Images, marquer incube, I-N-C-U-B-E, ou succube, S-U-C-C-U-B-E. Vous allez avoir toutes sortes d'images qui représentent bien qu'est-ce qu'il en est vraiment lorsque quelqu'un subit une paralysie du sommeil extrême. Puisque l'apparition des incubes et des succubes, on va le voir tantôt, se fait dans les dernières phases d'une paralysie du sommeil progressive. Donc, comme je vous disais, c'est un phénomène qui est connu et documenté depuis la première civilisation, donc le berceau de la civilisation dans l'actuel Irak, là, tel qu'on la connaît. On les appelait les terres de Shinar à l'époque. Les pires manifestations sont décrites comme une pesanteur sur la cage thoracique de la victime qui va rendre la respiration très difficile. Très, très difficile. Imaginez, là, la personne est incapable de respirer. Une COVID-19 sur les stéroïdes. Et selon les conjoints de victimes, donc de gens qui en sont morts de ces expériences-là, on comprend assez vite que ces expériences-là étaient d'ordre spirituel, puisqu'il n'y avait pas un facteur physique qui entourait la personne lorsque c'est arrivé. Il y a certaines conditions, je vous dirais, qui doivent être en place pour ouvrir et permettre ce genre d'attaque nocturne. Premièrement, les gens qui sont impliqués dans les sciences occultes, les séances, les arts magiques, donc finalement tout ce que l'Ancien et Nouveau Testament dénonce. Pratiquer, et ça c'est là que ça devient pervers, pratiquer le culte des anges gardiens ou celui des défunts. Donc, vous entrez à travers des littératures très, très, je dirais, accessibles aujourd'hui. Vous entrez en contact avec un esprit que vous pensez que c'est votre enfant qui est défunt ou que c'est un parent ou un ange gardien. Il y a un rapprochement qui se fait au fur et à mesure que les jours avancent pour ne pas comprendre que finalement, vous avez accepté un démon dans vos vies. Et croyez-moi qu'il va se manifester durant le sommeil. Surtout là, en fait. On pense aussi à des gens qui ont des dérèglements sexuels, une infidélité récurrente. Ça rentre dans la thématique justement de la visite des incubes et des succubes. Donc, ça se poursuit, si vous avez bien compris, ça se poursuit pendant le sommeil. Consommation de drogues dures, LSD, acide, champignons magiques. J'ai toujours dit que ça ouvrait des portails, ça ouvrait des portes de l'esprit. Une consommation soutenue, quand je dis soutenue, c'est plusieurs heures par jour, tous les jours, que ce soit de films d'horreur, de jeux violents, de voyeurisme, je pense entre autres à travers le dark web, etc. et etc. Toutes les abominations possibles et accessibles aux citoyens communs. On comprend que la paralysie du sommeil, comme les terreurs nocturnes aussi, sont, selon les victimes qui en ont témoigné, même ceux qui ont frôlé la mort suite à ces attaques nocturnes, ils ont révélé un modus operandi progressif de la part des démons et des esprits malins qui se manifestent. Donc, on parle ici d'un phénomène progressif. On n'étouffe pas le premier soir. Les premières manifestations se résument par la sensation que quelqu'un est présent dans la chambre, sans pour autant le voir, mais on sent qu'il y a une présence. Donc, vous avez quelqu'un qui est sur son lit, à moitié conscient, ou pleinement conscient, dépendamment où est-ce qu'il est rendu dans son cycle du sommeil, et incapable de bouger parce qu'il est paralysé, mais il sent qu'il y a une présence dans la chambre. Ça induit un inconfort chez lui. Donc, l'étape suivante est de voir des ombres dans la chambre, toujours en étant paralysé sur son lit, des mouvements, et ça se voit aussi lors de terreurs nocturnes. Et la terreur nocturne, où la personne va bouger énormément jusqu'à sortir de la maison pendant son sommeil, va souvent tenter de s'échapper de ces esprits-là ou de ces ombres-là qu'elle est capable de voir. Troisième étape du phénomène progressif, c'est de voir un être bien défini qui se tient debout dans la pièce, immobile, et qui porte son regard sur la victime qui vit une paralysie du sommeil. Plus la victime exprime de la peur, et là, c'est une clé ici. Et plus le démon ou l'esprit mauvais se rapproche d'elle. Ces entités ont pour nourriture la peur des gens. C'est pour ça que souvent, entre chrétiens, on se rappelle, c'est important de se rappeler qu'il ne faut pas être esclave de la peur. Parce qu'encore une fois, c'est une manière, je vous dirais ici assez directe, de baisser la garde. Et l'ennemi, quand on baisse la garde, en profite pour se rapprocher. Jusqu'à posséder sa victime dans les cas les plus extrêmes. Donc, encore une fois, je ne parle pas ici de chrétien né nouveau. Okay? Puisque le Saint-Esprit représente le bouclier ultime pour empêcher toute possession d'un chrétien. La posséder ou bien lui enlever la vie. Comme dans plusieurs cas qui impliquent des incubes et des succubes. Les examens post-mortem des gens décédés suite à ces expériences révèlent systématiquement un souffle coupé avant la mort. Comme si la personne n'arrivait plus à respirer, au même titre qu'une noyade. Donc, entre le décès, par exemple, suite à une noyade, et le fait d'absorber de l'eau dans les poumons, il y a quand même un délai qui se fait. Et ce délai-là, bien, il est manifesté lors des examens post-mortem. C'est angoissant ce que je vous dis. En même temps, si vous appartenez à Christ, n'ayez pas cette angoisse-là. Ne donnez pas accès au diable, cependant, pour qu'il ne vienne pas diluer ou bloquer la communion que vous avez avec le Seigneur. Mais est-ce que vous avez des proches autour de vous des gens que vous connaissez bien et qui ont déjà subi une paralysie du sommeil. Selon l'intelligence artificielle, elle nous dit que près d'une personne sur deux est appelée à vivre une paralysie du sommeil. Voyons-le sur le plan spirituel comme un wake-up call de la part de Dieu dans la vie de chacun, puisque beaucoup sont appelés. Donc, si vous connaissez une de ces personnes-là, vous pouvez lui partager cette vidéo. Vous pouvez, à votre tour, lui parler de ce qui en est vraiment de la paralysie du sommeil. C'est pas une question hormonale. C'est pas une question d'influx nerveux qui se rend ou qui se rend pas. C'est purement spirituel. C'est une attaque du deuxième ciel. Et c'est par amour inconditionnel pour les gens que l'on aime et que l'on sait qui ont vécu une paralysie du sommeil ou même une terreur nocturne, que tant et aussi longtemps qu'ils n'appartiendront pas au Seigneur Jésus-Christ, ils seront sujets à récidive. Il y a des risques de récidive. Et on a vu que lorsqu'il y a récidive, donc plus qu'une paralysie du sommeil, que le tout suit un phénomène progressif. Les récidives iront en augmentant. Et où l'incube et la succube se rapprochent de la personne et la tourmentent davantage. Faut se le dire, je veux dire, il est très difficile de croire qu'une personne aime vivre ce genre d'expérience-là. Ou que ça peut finir par le souffle qui est coupé. Et dans le cas extrême, ça peut amener la mort physique. Pourtant, qui est complètement involontaire ici. Donc, on comprend que pour eux, la prochaine nuit de sommeil, après avoir fait une expérience comme ça, là et les prochaines nuits de sommeil, elles sont angoissantes. Ils doivent avoir Jésus dans leur vie. Quelle belle façon d'évangéliser les gens. Et je veux vraiment marteler ce point-là. C'est une très belle fenêtre d'évangélisation. Ils sont à court de ressources. Ce ne sont pas les médicaments, les inhibiteurs qui vont régler la situation. Il y a une fenêtre qui se présente devant vous. Saisissez-la. La parole de Dieu, comme vous le savez très bien, nous enseigne que quiconque a une foi sincère dans le Christ Jésus et de son œuvre parfaite est alors habité du Saint-Esprit. Notre bouclier suprême, notre défenseur suprême, rappelez-leur 1 Jean 4:4, c'est une promesse de Dieu et c'est un fait pour chaque chrétien de nouveau. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui vit en vous, le Saint-Esprit, troisième personne de la Sainte Trinité, est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui règne dans le monde et qui envoie ses agents pour nous tourmenter. On le sait que Dieu est fidèle envers tous ses enfants pour toutes ses promesses. Et une de ses promesses est celle de ne jamais revivre ce genre d'expérience-là. Lorsque nous sommes régénérés par le sang de Christ. La porte est alors fermée, elle est verrouillée, pour de bon. Si un de vos proches, amis ou connaissances vit de telles expériences, exhortez-les à considérer un nouveau paradigme dans leur vie et d'accepter celui, l'unique nom qui peut les sauver, le Seigneur Jésus-Christ. Mort pour nous tous. Lui qui nous a tous appelés, mais qui malheureusement, statistiquement parlant, il y a peu d'élus. Faites de nouveaux citoyens dans les cieux, par le nom de Jésus. Et ici, vous avez une belle opportunité. Parce que c'est lorsque les gens sont faibles qu'ils peuvent devenir forts aux yeux de Dieu. 2 Corinthiens 12. Frères et sœurs, soyez bénis, richement bénis, par le Père de notre Seigneur Jésus. Et en espérant que cet enseignement, ce partage, vous aura édifié et vous aura aussi équipé à faire face à l'ennemi et à aider ceux que l'on aime pour les ôter des griffes du diable. À la prochaine.